Éco-psychologie.
Peut-être la détresse psychologique qu'on peut ressentir face à des problèmes d'écologie ou des trucs comme ça.
C'est assez angoissant quand même.
Ça fait flipper par rapport aux perspectives d'avenir, quoi. Enfin, moi, j'ai du mal à me projeter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour rire de notre époque tout en restant zen. Exercice de plus en plus délicat au fil des saisons. C'est vrai, ici on vous parle souvent d'écologie, du climat qui se dérègle. On vous présente des gens formidables qui tentent de lutter pour inventer un monde meilleur, moins émetteur en CO2. Et puis voilà, tout à coup, alors qu'on croit tenir le bon bout, Donald Trump nous annonce que les États-Unis vont forer comme jamais. Forcément, pour beaucoup d'entre nous, c'est la douche froide et cette inquiétude pour notre monde, cette empathie pour notre planète qui brûle, que Cyril, notre rédacteur en chef, a ressenti avec une telle vigueur qu'il a failli pleurer lorsqu'il volait dans un gros Airbus à destination de la République Dominicaine à Noël. Eh bien, tout ça peut avoir un impact énorme sur notre santé psychique. C'est pourquoi on zoome aujourd'hui sur une discipline baptisée l'éco-psychologie, une notion que j'ai découverte ce week-end dans la tiny house de mon ami réalisateur et naturopathe Ghislain Fontana. À la base, j'étais venu pour soigner ma grippe, car Ghislain m'avait dit « Arrête le Doliprane, c'est plein de PFAS, je vais te faire une décoction ortie-gingembre millepertuis, ça va te remettre d'équerre, tu verras, même tes cheveux, ils vont repousser. J'ai fait avec Édouard Philippe le mois dernier, regarde où il en est. » Quelques heures plus tard, j'étais donc en position du lotus, sur un tapis en poil de yak de l'Himalaya, à inhaler la décoction fontanesque, pendant que oiseaux de feu, radieux nénuphars et pluie d'un matin d'été, les trois enfants de Ghislain, me jouaient El Condor Passa à la flûte de Pan pour fluidifier mes sécrétions. Et c'est là, sur une étagère, qu'un livre a soudain attiré mon attention. Il s'appelait « Les voies de la Terre ». J'ai demandé à Ghislain ce que c'était, il m'a répondu sobrement « La Bible ». Qu'y a-t-il dans cette Bible? Qu'est-ce que l'éco-psychologie? Peut-elle nous aider à mieux nous sentir dans cet océan quotidien de mauvaises nouvelles écologiques? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Manuela Santamarina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Manuela, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et praticienne EMDR. Petit point là-dessus, c'est quoi l'EMDR pour ceux qui ne sauraient pas ?
C'est une technique psychothérapeutique qui a été créée pour accompagner les personnes qui souffrent de psychotraumatisme.
Ok. Alors, on reviendra. Comme c'est un mot, on adore les mots et on adore les expressions. On refera une émission là-dessus, hein, Cyril.
Sur l'EMDR ?
Oui, bien sûr.
On verra.
Mais notez-le quand même. Manuela, vous vous intéressez particulièrement aux enjeux écologiques à diverses échelles, militantisme, éco-anxiété, santé publique. Comment la psychologie peut nous permettre de nous reconnecter aux défis climatiques ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous pendant une heure. Juste le temps de vous présenter ma petite équipe de journalistes qui n'ont pas exactement le même rapport à la nature. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
À vos côtés, Manuela, sa connaissance de la nature se limite aux pelouses du square Villemain sur les rives du canal Saint-Martin. La dernière fois qu'elle a caressé un lapin, c'était en 2018, chez Isabelle Marant, la collection automne-hiver. Très belle chapka.
Manon, chaque
après-midi, vous nous présentez l'autre personne à suivre pour aller plus loin sur notre sujet.
Une éco-psychologue américaine qui a inventé toute une méthode autour de cette discipline.
Face à vous, Manuela, lui, c'est tout l'inverse. Il vient de la nature. D'aucuns diraient même qu'il sent la nature. Il a grandi au cœur du bocage normand, même si vous le constatez, un air sain ne suffit pas. Et comme vous le disait notre Premier ministre, contrairement aux poireaux, tous les enfants ne poussent pas à la même vitesse. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre notion du jour.
Oui, les poireaux, ça dépend, il y en a de toutes les tailles. Bon bref, que vous inspire l'éco-psychologie quand je vous arrête en pleine rue? Alors, il y a du « oui, la crise climatique affecte mon moral, mais seriez-vous prêt à faire une écothérapie, des bains de forêt, du jardinage thérapeutique ?» Vos réponses dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, nous essaierons de soigner notre éco-anxiété en nous rappelant que si la nature est belle, elle est aussi dangereuse. Le quiz nous entraînera à la découverte de ces forêts où il ne faut absolument pas se livrer à la sylvothérapie, et pour cause, elles sont les plus dangereuses du monde, surtout quand Pierre Courade y est. Juste avant 17h, nous serons rejoints par celle qui n'a jamais poussé plus loin en termes de forêt que le parc Monceau. Rosa Burstein viendra nous divertir un peu. Mais d'abord, Manuela Santamarina, on le lit, on l'entend, vous êtes au contact des patients. Est-ce que oui ou non, le dérèglement climatique provoque vraiment de plus en plus d'angoisse chez les gens?
Oui.
Clairement, vous le ressentez.
Non, ça, c'est sûr. Après, il faut que je sois honnête, dans mon cas, comme je suis spécialisée en éco-anxiété, j'ai effectivement plus de
patients. Cette clientèle-là.
Voilà. Mais après, il n'y a pas que moi, effectivement. J'ai notamment cofondé le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique avec notamment Charline Schmerber. Et c'était en fait l'idée de se dire qu'il y a plusieurs thérapeutes ou professionnels d'accompagnement qui s'intéressent à ces enjeux, qui sont sensibles à ces enjeux et qui ont du monde qui vient leur demander. Par contre, c'est vrai qu'il y a... D'ailleurs, c'est suite à une étude qualitative de Charline Schmerber, elle a pu mettre en évidence qu'en fait les personnes souffrent de ces questions-là, auraient besoin d'en parler, mais en fait elles n'osent pas trop aller voir des psys pour parler de ça, parce qu'ils ont peur d'avoir l'air fou, ils ont peur finalement de se dire, mais en fait, pourquoi je vais payer moi une séance individuelle pour une problématique générale?
Oui, problématique collective. Voilà. Lui, il fait partie de ces Français que le dérèglement climatique hante au quotidien. C'est en tout cas depuis ses allers-retours polémiques à Las Vegas, Ibiza, Punta Cana, 6000 tonnes de CO2, l'image qu'il tente de donner lui lorsqu'il se balade dans les couloirs d'Inter en écoutant très très fort La Terre au Carré et en déclarant à qui veulent entendre « Ah, mais je l'adore ce Cyril Dion !» Lui, c'est l'autre Cyril, Cyril La Carrière, bonjour.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'on m'écoute ici, à Ibiza, à Punta Cana.
Vous êtes vraiment worldwide.
Dans la sphère de Las Vegas.
Dans la sphère. Vous savez qu'on diffuse le Doux sa sœur dans la sphère à Las Vegas.
Ah bon, c'est un peu la première partie de Bono, c'est ça?
De YouTube.
De YouTube. Cyril, racontez-nous, vous qui êtes féru et de psychologie et d'écologie, on l'aura compris, l'éco-psychologie, d'où ça sort?
Eh bien, c'est en Californie que la discipline a vu le jour au sein de l'université de Berkeley en 1989. À l'époque, l'idée, c'est de rassembler plusieurs disciplines en une seule. La psychologie verte, l'écologie transpersonnelle et l'écothérapie sont toutes mises dans un même panier, celui de l'éco-psychologie. Berkeley a longtemps été un lieu d'idées progressistes où on encourageait le travail interdisciplinaire, comme c'est le cas là. C'était donc un lieu propice à la naissance de nouveaux champs d'exploration comme l'éco-psychologie. Même si la discipline est née à Berkeley, c'est à un historien américain qu'on doit le terme, Theodore Roszak. Roszak, prolifique question invention, parce que c'est lui qui est aussi à l'origine de la notion de contre-culture qu'il forge dans son livre « Naissance d'une contre-culture » paru en 1969. Voici comment les éditions Gallimard présentent ce texte. Une défense de la contre-culture qui, malgré ses aspects bizarres et hétéroclites, son usage des drogues, son ingéniosité, la superficialité de ses expériences spirituelles, sa probable récupération ne peut être considérée comme un caprice de la jeunesse. Il s'agit au contraire d'un refus politique de la technocratie. Si je vous parle de ça, c'est qu'il y a un lien pour aboutir 20 ans plus tard à l'éco-psychologie.
Et quel est ce lien, Cyril ?
Eh bien, là aussi, Theodore Roszak va explorer d'autres manières de penser, ouvrir le spectre d'analyse et de nouveau faire de la politique. C'est dans son livre « Les voies de la Terre », la Bible de Ghislain Fontana, publié en 1992, qu'il invente le terme d'éco-psychologie. Il y explore les liens entre la psychologie humaine et la nature. Pour Roszak, la crise écologique n'est pas seulement un problème environnemental, mais aussi un problème psychologique et spirituel. C'est là que ça devient un sujet politique. Alors, 30 ans après Roszak, comment est-ce qu'on pratique cette éco-psychologie? Qui la pratique d'ailleurs? Peut-on mélanger psychologie et politique? Va-t-on se soigner en soignant la manière de conduire le monde? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Et la crime écologique, hein, le lapsus est révélateur. Vous en avez gros sur la patate, mon vieux, visiblement.
Oui, je planterai un arbre.
Oui, ça ne changera pas grand-chose, ça coûte bien carbone. Manuela Santa Marina, on va avoir besoin de vos lumières pour expliciter ce que vient de nous dire Cyril. Pas que c'était pas clair, là je me permettrai pas, mais on a connu des douceurs plus faciles. On a envie d'entendre votre définition parce qu'on a compris que c'était un mot un peu parapluie qui regroupait pas mal de choses. L'éco-psychologie, c'est quoi, si on devait le résumer à un dîner avec des amis?
C'est vrai que c'est un peu large. Je dirais que c'est une tentative de réponse face à la situation dans laquelle nous sommes, qui est de effectivement constater que... Enfin, une rencontre, parce que souvent... Alors non. Si je reviens à l'idée un petit peu transdisciplinaire qui est vraiment importante ici, c'est de dire on a fait rencontrer en gros la psychologie et la question de la nature, les sciences de la nature, l'écologie et d'autres choses, et de se rendre compte que nous faisons partie de la nature, nous souffrons, si notre habitat ne va pas bien, nous n'allons pas bien. Et donc du coup, si on veut prendre soin de nous, il faut prendre soin de l'habitat et vice-versa.
Ça veut dire que ça explore à la fois les causes psychologiques du dérèglement climatique et les conséquences de ce dérèglement sur notre psychologie?
Oui. Enfin, à l'époque, en fait, c'était vraiment plus marginal que ce qu'aujourd'hui, peu à peu, c'est en train de venir. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est clairement dans la fenêtre d'Overton de dire qu'il y a un problème avec l'écologie. Donc, du coup, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus de cette histoire d'éco-psychologie. À l'époque, c'était quand même plus, effectivement, dans ce mouvement de contre-culture, c'est-à-dire quelque chose d'alternatif, en à côté, qui se voulait être une... après, c'est aussi un regard très occidental que de dire que c'est quelque chose qui est né dans les années 60. En fait, il y a des cultures dans lesquelles on se sent et on fait partie et on se bat pour dire qu'on fait bien partie de la nature et que c'est une aberration d'attaquer la nature, qui est une façon de nous attaquer nous-mêmes.
Est-ce que vous diriez que le dérèglement climatique, ça a généré de nouvelles névroses? Est-ce qu'il y a de nouvelles névroses qui sont catégorisées comme telles suite à ce qu'on vit?
Plus que des nouvelles névroses, je dirais que c'est de nouveaux mots qu'on essaye de poser. Après, pour moi, je suis clinicienne sur le terrain, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes, je ne suis pas chercheuse, je ne peux pas dire... on me demande souvent quel est le terme que vous aimeriez plutôt utiliser plutôt que celui-ci. Je ne peux pas me permettre de mettre des nouveaux termes, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup trop. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de... Et on doit créer des mots ou peut-être faire se rejoindre des disciplines pour parler de certaines choses sur lesquelles, avant, on n'avait pas trop de regard dessus parce que c'était un peu une zone d'ombre ou... Enfin, l'angle mort, quoi.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Comprendre et guérir notre relation avec la Terre. Zoom cet après-midi sur l'éco-psychologie. La psychologue clinicienne Manuela Santamarina est avec nous pour nous expliquer de quoi ils retournent. Concrètement, ils vous disent quoi, les patients qui vous consultent pour des formes, j'imagine, on appelle ça de l'éco-anxiété. C'est quoi le motif qui revient le plus ?
Ça, c'est une question importante parce que souvent, on pense que dans l'éco-anxiété, il y a d'une part... de l'anxiété, ce qui n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'une personne, elle n'est pas forcément prise d'angoisse, elle peut aussi être prise de colère ou de tristesse ou de honte. Et disons, elle ne va pas que me parler du climat ou d'avoir peur d'avoir chaud. Donc souvent, ce qu'elle va me raconter, c'est qu'en fait, elle a peur de la guerre ou du chaos social que peut générer l'état du monde dans lequel nous sommes, de se retrouver à court de ressources. Elle peut avoir honte ou se sentir extrêmement coupable de faire partie, on va dire, de cette bande d'humains qu'on est, qui vont générer cet anthropocène. Et après, il y a aussi des personnes qui, concrètement, peuvent être très, très angoissées de l'avenir.
Elle vient d'où cette culpabilité des médias, des rapports scientifiques, des catastrophes qu'on voit en direct à la télévision, ou simplement d'observer la nature se dégrader ?
Il y a une part de responsabilité qui est réelle, c'est-à-dire on parle bien d'anthropocène, donc c'est bien l'humain qui a on va dire...
Mais à notre échelle, on a quoi ? On a une voiture, on essaie de pas trop voyager...
Alors ça c'est autre chose après. Bon, déjà là vous me demandiez, la culpabilité c'est différent de la responsabilité. L'humain est entre guillemets quand même responsable de tout ce qui se passe. Après effectivement, est-ce que moi, Manuela Santamarina, ou mon patient très spécifiquement est responsable ? Non. Et c'est là effectivement où on a un problème, c'est que les médias, ou de manière générale beaucoup aussi les gouvernements pointent et responsabilisent beaucoup l'individu avec cette idée que chacun...
Par exemple.
Voilà. Il faudrait que chacun fasse sa part avec l'histoire du petit colibri, sachant que c'est plutôt faux, parce qu'au contraire, on sait très bien qu'à un niveau individuel, si tout le monde faisait sa part, il en faudrait encore bien plus pour pouvoir résoudre le problème.
Est-ce qu'il faut être militant pour être éco-psychologue ? Parce qu'il faut quand même s'y connaître. Si on est face à des patients qui viennent nous parler de telle ou telle situation, il faut pouvoir leur répondre et leur donner des solutions concrètes.
S'y connaître, ce n'est pas forcément être militant. S'y connaître, c'est être formé et être sensibilisé à l'enjeu. Être militant, je dirais, c'est essayer d'œuvrer pour faire changer les points de vue des autres. Or, c'est vrai que ça, un psychologue, c'est pas sa place. La place du psychologue n'est pas d'aller dire ce que doit penser un patient. Par contre, un patient qui vient nous voir et qui nous dit « je souffre de ce sujet », de cette thématique, si moi je ne suis pas sensibilisée à ce moment-là, je vais dire bon, si vous exagérez un peu, vous prenez un peu la tête pour rien. Là où effectivement on doit sortir de notre neutralité, c'est, et ça c'est mon point de vue, c'est pas le point de vue de tout le monde, mais c'est ce pourquoi peut-être je milite, c'est que mes collègues psychologues se forment et s'informent, on va dire, sur ces enjeux-là, de manière au moins à ce que lorsqu'un patient lui parle de ça, ne cherche pas à banaliser la situation, mais au contraire...
Mais il y a des formations psy aujourd'hui ? Concernant l'écologie,
oui, on est dedans. C'est-à-dire que il n'y a pas de formation pour psychologues pour se former aux enjeux de l'écologie. Maintenant, par exemple, moi, je vais proposer une formation pour accompagner les psychologues à écouter ces types de problématiques-là. Il y en a d'autres aussi qui proposent ça, mais voilà.
Vous parliez de votre opinion, mais ça veut dire qu'il y a des confrontations d'idées au sein même de l'éco-psychologie ?
Alors moi je suis pas éco-psychologue.
Non mais enfin, de ce domaine, je veux dire.
comme dans tout, oui, il y a des points de vue différents.
Et que disent les autres ?
Et alors, ils peuvent dire plein de trucs différents. mais c'est-à-dire, il y a des personnes pour qui qui vont être personnellement climato-sceptiques, et donc elles vont juste dire quelque chose du style on en a vu d'autres, faut l'accompagner comme n'importe quelle autre chose. Il y en a qui vont parler de ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire de dire que c'est une angoisse nous, on parle de trouble anxieux lorsque les patients présentent des angoisses qui sont irrationnelles. C'est-à-dire, je vais avoir peur des araignées parisiennes et j'ai peur que ça puisse me tuer. Or, on sait qu'une araignée parisienne, ça ne tue pas. Mais par contre, on sait que le dérèglement climatique pourrait nous tuer. Donc là, c'est pas une anxiété irrationnelle. Par contre, il y en a qui continuent de l'accompagner accompagner ou de l'écouter comme si c'était irrationnel. Ça, c'est le problème.
Tout à l'heure, Cyril, il nous parlait de cet historien américain, Theodore Roszak. On va faire un tout petit peu de philo. Il remettait en question la distinction nature-culture qu'il considérait comme une construction problématique de la pensée occidentale moderne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça a l'air intéressant.
Alors, je suis pas philosophe, mais disons qu'il y a un peu effectivement cette idée de vouloir opposer l'humain à la nature, comme si lui n'était pas dans la nature. C'est un problème intrinsèque, on va dire justement à... Enfin, c'est comme ça que se comprend l'éco-psychologie, avec le... c'est faux. Nous faisons partie de cette nature, et le fait de vouloir absolument nous éloigner à chaque fois de plus en plus de cette nature, ou même de manière générale à la mort, ou de... Enfin voilà, être bien au chaud, puis aujourd'hui se balader en forêt, il y en a qui vont avoir peur des tiques, il y en a qui vont avoir peur des petites bêtes, il y en a qui vont avoir peur d'être mouillés, enfin voilà. Donc c'est vrai que ça... On peut quand même se poser la question de comment on en arrivait là.
Ne plus opposer la nature et la culture. Et vous, ça vous inspire quoi, l'éco-psychologie? Est-ce que notre discussion vous donne envie de consulter? Plutôt que d'attendre que vous me répondiez, ce qui serait techniquement fastidieux, j'ai envoyé Quentin vous poser la question. Quentin, c'est dans le cœur de la ville que vous êtes allé parler éco-psychologie.
Et mes rencontres du jour commencent par ces deux jeunes femmes. Elles sortent de cours, elles sont plutôt contentes de passer sur Inter. Bonjour.
Bonjour.
Quels sont vos prénoms?
Maya.
Faustine.
Vas-y.
Éco-psychologie.
Peut-être la détresse psychologique qu'on peut ressentir face à des problèmes d'écologie ou des trucs comme ça.
Est-ce que c'est votre cas?
Un peu, carrément.
C'est assez angoissant quand même.
Ça fait flipper par rapport aux perspectives d'avenir, quoi. Enfin, moi, j'ai du mal à me projeter.
Alors, est-ce que ce manque de projection chez les jeunes, Jean, serait l'un des facteurs de ces troubles psychologiques? Lui est jeune aussi, 18 ans, il s'appelle Jules. Il est en école de cinéma à Elancourt.
Éco-psychologie, ouais, c'est ça. En vrai, je suis un peu d'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, les jeunes, ils sont beaucoup déconnectés de ce qui est la nature, et je trouve ça dommage. On est des animaux de base, en fait, finalement. On est la nature, on fait partie de la nature, même si on se désolidarise de plus en plus de ce qu'elle est aujourd'hui avec les aires urbaines et les choses comme ça. Aujourd'hui, on fait quand même partie de la nature et on est biologiquement adapté à vivre dans celle-ci.
Et d'ailleurs, l'an passé, avec ses potes, ils ont tenté une reconnexion.
Je sais que l'année dernière, on était partis tous ensemble faire une randonnée en pleine montagne où il n'y avait rien du tout. Et c'était vraiment génial, en fait. On était vraiment dans le silence le plus profond de la montagne. Et ça nous avait vraiment reconnecté déjà à la nature. Mais je trouve que ça nous avait aussi reconnecté entre nous, entre copains, parce que malgré les difficultés, parce que c'était vraiment très dur, on s'était soudés vraiment très fortement en amitié, et je trouve que ça nous a vraiment rapprochés.
Bon, la rando, ça fait du bien. Mélanie, sweat noir, capuche sur la tête et casque audio, se dégage une oreille pour discuter. Que fait-elle dans la vie?
Je suis tatoueuse et musicienne. Là, je vais au travail, je vais tatouer.
Elle découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Éco-psychologie.
De quoi on parle à votre avis?
Alors c'est drôle parce que j'ai une amie qui a fait des études là-dessus. Je pense qu'on s'est complètement déconnecté, mais j'ai grandi dans la nature et je me levais avec le soleil, me couchais avec le soleil. C'était incroyable, mais je pense que voilà, dans l'existence de quelqu'un, il y a des moments pour le faire et d'autres où on ne peut pas.
Pour Mélanie, il y a des cycles dans la vie, il faut gérer avec eux et renouer avec la nature comme on peut, avec un tatouage par exemple.
Moi, c'est quelque chose que je conseille toujours dans mon métier, tous les motifs qui ont un rapport avec la nature, ils sont vraiment très très à propos sur le corps. Ça fait des très beaux tatous, et quand les gens ne savent pas quoi se faire tatouer, moi je leur conseille de se faire tatouer des animaux par exemple. Parce que c'est vrai, ça rend vraiment les plus beaux dessins, les plus beaux tatouages.
Souvent un tatouage raconte une histoire, une blessure, un moment de vie. Alors si on fait une écothérapie, pourquoi ne pas s'ancrer la nature directement dans la peau? Lui n'a pas de tatouage apparent, trentenaire, beau gosse, parisien. J'ai envie de lui parler de bain de forêt, de câlin aux arbres. Il en dit quoi?
Éco-psychologie. Traiter le sujet de l'écologie peut-être de manière psychologique, je sais pas. Je pense un peu tous les jours, je suis un peu défaitiste. Le câlin à l'arbre, je sais pas, mais la balade en nature, ouais. Ouais, tous les jours, je vais aller courir au but de Chaumont, qui est le parc le plus nature, on va dire, dans Paris. Et si je le fais pas pendant 4-5 jours, ça va pas.
Les buts de Chaumont sont un lieu thérapeutique
Pour moi, ouais.
Ma dernière rencontre, c'est Lisa, sur le marché du travail depuis quelques années. Le bon beurs, les mains dans les poches. Bon, elle est pas emballée, je le sens.
Je jugerai pas, moi personnellement, je viens pas du tout de Paris, j'aime beaucoup la nature et quand j'ai besoin de me ressourcer, je vais voir la nature de moi-même, quoi. Enfin, je ressens pas le besoin de faire des thérapies ou de mettre des mots sur ça, mais effectivement, des fois, je ressens le besoin de me reconnecter avec la nature, mais j'y vais de moi-même, quoi, j'ai pas besoin de...
Elle me dit que sa campagne, sa forêt est proche d'Avignon, où elle rentre dès qu'elle en éprouve le besoin, parce que Paris...
Quand tu vis à Paris, enfin même... Même moi, en tant qu'humaine, tu vois, quand je suis sur Paris, j'ai pas du tout la même connexion que quand justement je rentre à la campagne entre guillemets.
Même avec les autres humains quoi, c'est ça ?
Même avec les autres humains, quand je suis à Paris, je suis une parisienne, je suis un peu une connasse quoi.
Et c'est là que mon âme d'entrepreneur prend le dessus. Si les tasses avec le bruit du cigale échouent, si mes maisons de retraite de luxe pour seniors ne prennent pas, on pourrait faire des retraites, des écothérapies, formule tout compris, bain de forêt, tutti quanti, dans ma Normandie.
C'est trop marrant parce que ma boss, dès que tu dis un truc comme ça, elle est en mode... Ouais, je pense qu'on pourrait faire un business. Ouais, sûrement, je sais pas. Je trouve que la nature, ça se finance pas. La nature, c'est pour ça que tu vois, tu me disais les trucs de thérapie. Pour moi, c'est... Je vais me balader en forêt, je vais dans la forêt. J'ai pas envie de créer un groupe pour aller... Enfin, pour moi, c'est...
Elle vous laisse perplexe, cette discipline qui explore les liens profonds entre les humains et la nature. A-t-on besoin d'être diagnostiqué pour aller prendre l'air en forêt et pour déménager, pour adapter son lieu de vie aux angoisses que l'on trouve parfois dans les rues des grandes villes ?
Merci Quentin Manuela Santa Marina. On comprend bien hein, que l'éco-psychologie, c'est pas du tout la sylvothérapie, les bains de forêt, tout ça. Mais est-ce que c'est ce genre de pratique qui, se développe, on en parle de plus en plus, est-ce que ça peut être intéressant comme solution quand on est éco-anxieux déjà, ou est-ce que, quel est l'œil de la psychologue clinicienne sur ces pratiques ?
Bon, alors mon regard là-dessus, c'est que si c'est là, c'est parce que ça exprime un besoin. C'est-à-dire si les gens commencent à de plus en plus demander des groupes de comme ça, effectivement, ou en proposer, c'est parce qu'il y a une espèce de demande, de besoin qui s'exprime là-dessus. Là où moi je suis un peu attristée, c'est qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a eu un peu un abandon du monde de la psychologie de ces questions-là, et donc du coup les personnes qui vont animer ou qui vont monter ces groupes ne sont pas forcément les personnes toujours les mieux formées. Alors il y en a qui sont extrêmement bien formées, Johanna Messi... Et notamment une de celles qui a créé les protocoles d'accompagnement.
J'en parlerai après.
C'est
oui.
Pour ça.
J'ai vu un petit regard, une oeillade complice.
Et donc, du coup, je suis heureuse qu'elle ait créé ça. Il y a énormément de choses hyper intéressantes là-dedans. Maintenant, pour moi, justement, mon souci, c'est de se dire, entendons ce besoin et essayons de réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça se fait dans un cadre le plus... sain, on va dire, pour les personnes.
À votre avis, ça concerne plus les citadins que ceux qui vivent à la campagne, cette angoisse ?
En fait, je pense aussi que... non. Ah pardon, excusez-moi, je pensais que vous alliez me poser une autre question. Sur l'angoisse, non, je pense que ça peut toucher tout le monde. C'est juste que peut-être que les citadins entendent plus parler de ces histoires d'éco-anxiété, ils se reconnaissent un peu plus dans la manière dont c'est présenté. Mais non, un agriculteur qui va voir de plus en plus sa terre s'abîmer, ne pas réussir à arriver, enfin ne pas joindre les deux bouts à la fin du mois, pourrait être pris d'éco-anxiété, sauf qu'il ne vous dira pas qu'il est pris d'éco-anxiété, il utilisera d'autres mots.
Mais si on se sent étouffé un peu en ville, vous conseillez d'aller par exemple au parc des Buttes-Chaumont, au bois de Vincennes ?
Alors ça, les études l'ont démontré.
Ouais.
Qu'une balade, en ville est moins efficace que 20 minutes de balade en nature. Tout simplement être en contact avec effectivement des arbres, des choses comme ça. Et oui, c'est démontré, c'est mieux pour la santé. Mais c'est sûr que les buts de Chaumont, c'est pas la forêt amazonienne. Mais c'est quand même mieux que de se balader peut-être en plein milieu de France Mitterrand, enfin la bibliothèque
François Mitterrand,
où là c'est tout bétonné par exemple.
On entendait Jules dans le micro-trottoir qui disait qu'il trouvait que les jeunes étaient déconnectés. Mais vous trouvez aussi, j'ai l'impression au contraire, qui cherchent plutôt une reconnexion avec la nature aujourd'hui.
En fait, c'est compliqué de parler d'une bande, les jeunes ou les pas quoi. Enfin, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai un enfant, je me rends compte qu'il est capable de gérer des outils technologiques beaucoup plus vite que moi. Donc, il y a une réalité qui fait que les jeunes ont plus facilement accès à la technologie et donc à des éléments qui sortent, on va dire, de la nature. Enfin, qui déconnectent effectivement de se dire, allez, je vais jouer avec un bâton dehors. Maintenant, aussi, ce sont les personnes qui... Et c'est pas forcément tous les mêmes, mais qui vont aussi s'inquiéter du futur parce qu'ils entendent bien, ils voient bien qu'il y a une inquiétude dans le futur au niveau de l'évolution et
que ça va les concerner.
Oui, et que ça va les concerner dans leur futur à eux. Oui.
Qui vient au cabinet ou qui vient vous voir ? Il y a des jeunes, des vieux ? C'est quoi le profil de ceux qui s'intéressent ?
Moi, j'ai un peu de tout, mon cas. Oui, oui. Et déjà, j'ai des scientifiques qui travaillent sur le sujet, qui sont complètement touchés, exaspérés, effondrés par la thématique. Après, moi, j'accompagne des militants, donc là, c'est vrai qu'il y avait plus de jeunes, mais même au sein des militants, il y avait des personnes âgées. Je peux aussi accompagner des personnes qui... se pose des questions sur est-ce que je vais avoir un enfant ou pas, enfin qui se pose des questions existentielles de vie, est-ce que je veux rester vivre à Paris ou justement est-ce que je veux pas partir, est-ce que je devrais pas changer de job parce que je trouve que mon job c'est un bullshit job là, les jobs qui n'ont pas de sens ou des choses comme ça.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur la notion d'éco-psychologie, vous savez ce qui me fascine le plus dans la nature ? Son incroyable faculté à recycler. Les déjections des petits mammifères deviennent engrais, les cadavres deviennent humus, et les zoom-zoom tests deviennent, au terme d'un processus mystérieux et fascinant, de nouveaux zoom-zoom tests. Amis de la nature, c'est l'heure du quiz.
Ah là là, c'est pas possible.
Un quiz qui va répondre à des questions qu'on connaît déjà ?
Non, bah vous avez tout oublié, mes pauvres vieux.
Oui, on a vu ça d'il y a bien longtemps.
Un quiz qui va nous déculpabiliser un peu vis-à-vis de l'environnement, puisque la nature, c'est bien joli, mais c'est aussi très dangereux, surtout lorsqu'on se balade dans les plus redoutables forêts du monde. Un voyage qui commence évidemment sur les rives du fleuve Amazone. Manon Quentin, je sais que votre connaissance de l'Amazonie se limite à l'album de Tintin, L'Oreille Cassée, qui a dû d'ailleurs vous donner une piètre image assez biaisée des peuplades amazoniennes. Néanmoins, je me dis que peut-être, en rentrant de soirée bourrée, après avoir commandé un Big Mac sur Uber Eats, vous avez eu ce réflexe qu'on a tous eu, regarder RMC Découverte. Je sais, Manon est avantagée sur cette question. La voici. La forêt amazonienne est un peu le poumon vert du monde.
Oui.
Amazonienne est le poumon vert du monde. Déjà, j'arrive à faire les phrases en entier. Un miracle. Un miracle, vu mon état. Mais c'est aussi une des forêts les plus dangereuses qui soit. En 2009, notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, vivait infiltré dans la tribu des Capayos, la CIA l'ayant chargé d'espionner leur chef, le célèbre activiste écologiste Raoni, qui, Cyril ne le connaissant pas, avait été sommairement décrit par son supérieur comme le monsieur avec un cendrier en rotin dans la lèvre. Une mission qui a bien failli tourner court pour Cyril lorsqu'un jour il décide de se baigner dans l'Amazone sans maillot de bain pour, je le cite, faire respirer la bête. D'après vous, quel animal terrifiant va-t-il croiser ? Est-ce l'araignée banane ? Le candirou, un petit poisson nécrophage ? Ou le crococquin, un crocodile mutin, mutin aussi, dont les gènes se sont combinés à ceux du requin dans le delta de l'Amazone.
Ah, ouais.
L'araignée banane.
Faut attendre la fin de la.
C'est dommage, c'est la réponse
B.
Voilà, heureusement qu'on avait déjà posé la question une fois. Ce jour-là, Cyril a compris tout l'intérêt de l'étui pénien des Capayos. Il offre une protection contre le candirou, petit poisson à l'apparence anodine qu'on imagine volontiers en friture avec un bon aïoli. Et pourtant, il s'agit là d'un des animaux les plus vicieux au monde, puisque le candirou a la détestable manie de repérer votre appareil génital, puis de se faufiler dans votre urètre pour venir vous sectionner une artère. Faut agir très vite sous peine de se vider de son sang. Heureusement pour Cyril, Polo, le pote altruiste de Quentin, passé par là en pirogue, il a fait ce que Polo fait quand un homme a besoin de lui. Quant à l'araignée banane, elle existe elle aussi, vous avez raison. Et elle est tellement mauvaise que les Amazoniens l'ont surnommée araignée courade, du nom du dernier blanc qui a tenté d'évangéliser le sous-continent américain. D'après vous, avant de vous tuer, parce que vous y trompez pas, inutile de chercher un espi venin, le venin de l'araignée banane va vous tuer. Que va vous donner l'araignée banane pendant 10 heures ?
Oula.
La banane, justement, d'où son nom ? Une érection, d'où son nom aussi ?
Ah,
10 heures.
Une folle envie de danser.
Bébé, oui. C'est.
Ah, vous vous êtes retrouvé. Et là, on sent vraiment le naturaliste. On sent l'amoureux de la nature qui connaît bien.
Ça pique ou un truc comme
mais
ça,
allô,
non,
ouais.
Non, c'était
ils font pas danser.
C'était évidemment la réponse B. Maintenant, vous n'allez pas danser avant de mourir. En revanche, vous allez avoir la gaule. L'araignée banane fera un homme vigoureux pour être raide avant de l'être vraiment.
Compliqué.
Enfin, dans la forêt, les amis, il n'y a pas que les animaux qui tuent.
Faut pas être âgé, quoi.
Certaines forêts sont tellement perverses qu'elles vous tuent elles-mêmes. Nous sommes sur la côte est de l'Amérique du Sud, au cœur de ce qu'on appelle la forêt atlantique. Cyril Lacarrière y goûte un repos bien mérité après ses mésaventures aquatiques. Seulement voilà, Cyril est nul en plantes et au lieu de rester tranquillement dans son lodge 5 étoiles, il décide un matin de se promener dans la forêt. Aux alentours de 11h30, 11h45, heure à laquelle son estomac exige qu'on lui rende des comptes, Cyril avise un bel arbre à l'ombre duquel il se dit qu'il fera bon déguster son pique-nique. Oh, un casse-croûte tout simple avec quelques œufs durs, du pâté en croûte truffée, une terrine de foie de volaille, une blanquette de veau, une tarte bourdaloue. Le tout arrosé d'un thermos de brouillis. Il s'adosse au bel arbre, commence à déguster quand soudain, sa vue se trouble, son souffle devient court, il est pris de tremblements.
Je m'en rappelle de ce...
Les mêmes symptômes que la fois où on avait fait l'émission sur le wokisme. Sauf que là, ça ne passe pas. Dans un réflexe typique d'un agent de la CIA, Cyril referme le brouillis, se redresse et se met à courir. Mais le cauchemar continue puisqu'il est atteint par une rafale. Mais une rafale de quoi ? Il ne le sait pas encore. Il pense aux communistes. Mais que foutraient des communistes dans une forêt sud-américaine en 2025 ? Ses pensées sont confuses, mais vous, Manon Quentin, en expert de la faune subtropicale, vous avez compris ce qui s'était passé.
Oui.
Cyril s'est assis sur un saule piqueur. Un arbre qui héberge des guêpes tueuses. N'a rien de drôle. Cyril s'est assis contre un hurrah crépitant, un arbre dont la sève toxique vous rend fou. Ou Cyril s'est assis contre un bombardier, un arbre qui propulse ses graines à plus de 240 km/h.
C.
Je vous laisse l'opportunité d'une autre réponse. Bah non.
Les trois.
AB. On finit par un fiasco sur un quiz qui pourtant effectivement a déjà été proposé, c'est une catastrophe. C'était les réponses B et C. C'est vraiment pas de bol, le sort s'acharne sur ce malheureux Lacarrière. Ne jamais pique-niquer sous un bombardier de la forêt atlantique. Le nom scientifique c'est hurrah crépitans. Sa sève et ses graines peuvent provoquer tachycardie, troubles de la vision, confusion mentale, convulsion et d'essai. Un arbre de 45 mètres de haut qui en plus balance ses graines à 240 km/h, d'où son surnom, le Paix du Diable. Tout un programme. Victoire de Manon, malgré tout.
Merci.
1-0, c'est de dire, quand même, le degré de l'humilité.
Mais il date, hein. Ça va, Mathieu? Les mouchoirs, le thé...
Oui, bah écoutez, on s'occupe de moi.
Oui, il y a des gens qui vous apportent des mouchoirs.
Ouais. Flo Jimalac a compris qu'effectivement, j'étais un peu au bout de ma vie, elle vient de m'apporter un très beau pack de mouchoirs. Je suis très heureux. Je suis très bien assisté dans cette émission. Qu'est-ce que l'éco-psychologie, ou comme on le disait à la belle époque, du c'est quoi ça, l'éco-psychologie? La psychologue Manuela Santamirana nous aide à décrypter tout ce qu'elle recouvre, cette notion d'éco-psychologie. Quand on parle de psychologie et de nature, pardon, mais on pense aussi forcément à ces stages hors de prix qu'on nous vend, qui nous promettent de nous reconnecter à l'essentiel. Est-ce qu'il y a aussi, et il faut les cibler, des dérives dans tout ce qui est sous le chapeau de l'éco-psychologie?
De manière générale, dans le soin, il y a toujours des dérives. Et il y a toujours un peu la volonté d'on va vous vendre telle chose pour que vous alliez mieux. Parce que quand on va pas bien, on est généralement prêt à tout pour aller mieux. Donc du coup, ça n'échappe pas dans le monde de l'éco-psychologie. Effectivement, il y a des risques.
Des charlatans qui proposent d'aller enlacer des arbres, de se mettre nu dans la forêt, j'en sais rien. J'essaie de comprendre, mais c'est ça que vous dénoncez?
Ça pourrait arriver. Enlacer des arbres, c'est pas forcément du charlatanisme en soi. Pourquoi pas? Alors, l'idée, déjà, c'est de dire oui, attention, comme dans tout, quand on est vulnérable, il y a des risques de charlatanisme. Après, enlacer des arbres, que ça soit du charlatanisme, ça, c'est pas sûr. Parce que, par contre, comme je disais tout à l'heure, être en contact avec des arbres, tant que c'est pas comme le bombardier de tout à l'heure.
Oui, celui-là, non.
C'est plutôt généralement, au contraire, ça peut faire du bien. Si la personne a envie de le faire, qu'elle le fasse. Moi, si c'est ça qui lui fait du bien, moi, j'aurais pas de problème avec ça. La question, c'est que la personne y trouve son compte et qu'on lui propose un outil thérapeutique qui a été d'une certaine façon au moins validé. Là, il y a justement Hélène Jalin qui est à l'Université de Nantes qui s'intéresse à cette question, de se dire, pour certains protocoles très spécifiques comme celui de Johanna Messi, de se dire, est-ce que c'est finalement utile ou pas utile et quels sont les impacts pour la personne. Moi, je suis plutôt pour, on va dire d'une certaine façon, que les gens fassent ce qui est bon pour eux. Parce qu'en fait, ce qu'ils demandent, et c'est pour ça que ça, c'est aussi connu, cette technique, ces accompagnements-là, c'est les personnes disent se reconnecter. Je ne sais pas si c'est vraiment à la nature, mais on a vu, je crois que c'était les jeunes qui disaient ça, qui se sont aussi reconnectés entre eux.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un temps de
reconnexion. En faisant un trail dans la montagne.
Exactement. Ouais. Se retrouver entre humains et aussi se reconnecter un peu entre nous, passer du temps entre nous, se sentir... se sentir faire partie d'un collectif, ne plus porter ça justement au niveau individuel, se rendre compte que cette situation dans laquelle nous sommes nous touche tous, on est tous un peu dans le même bain et ça peut tous nous faire un peu mal si on commence à s'asseoir et y penser, de se dire ce qu'on a fait de notre jolie planète quand même.
Mais vous dites que se reconnecter à la nature, évidemment, ça fait du bien, mais psychologiquement, qu'est-ce que ça fait d'enlacer un arbre?
Moi, par exemple, ça ne me fait pas grand-chose.
Pour d'autres, à ceux que ça fait du bien.
À ceux que ça fait du bien.
Enfin, à ceux que ça aide.
Alors, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de... les études ont démontré que ça faisait réduction du stress, au niveau du rythme cardiaque aussi, ça diminue, que ça peut améliorer l'humeur, que aussi l'anxiété diminue. Enfin, toute une quantité d'indicateurs, d'éléments de stress corporel, qui ont effectivement ce sont des indicateurs qui vont beaucoup mieux après des balades en forêt.
Mais ça me paraît assez évident finalement, Manon, pardon, mais parce qu'on écoute aujourd'hui sur Deezer, sur Spotify, parfois des playlists,
oui,
on met
«
Bruit de la forêt » et qui nous apaisent juste quand on travaille. Alors évidemment, aller dans une forêt, entendre ces sons-là avec une petite rivière qui coule et les odeurs en plus, forcément ça peut que faire du bien, je pense.
Oui, c'est comme par exemple quand on dit le rythme cardiaque, pour les bébés d'entendre le rythme cardiaque de leur mère. Enfin, il y a des sons, je ne saurais pas vous dire parce que je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais il y a des sons qui certainement viennent... nous remettre en lien avec quelque chose interne.
Vous conseillez ça? J'ai un ami qui a mis des bruits d'oiseaux dans ses toilettes, par exemple. Est-ce qu'il faut le conseiller?
Je suis pas sûr que ce soit pour les mêmes raisons, mais
est-ce que ça détend de mettre une playlist, par exemple, ou de...
Pourquoi pas?
Ouais, ça, c'est conseillé.
Mais conseiller, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de conseiller tout ce que vous sentez qui vous fait du bien. Ouais, allez-y, pourquoi pas. Si c'est écouter de la musique plutôt hard rock pendant les toilettes, si c'est ça qui vous fait du bien, allez-y.
J'y avais pas pensé. Tiens.
C'est pas le cas chez vous,
Mathieu. Faut changer, Mathieu.
C'est chez moi, la boîte à oiseaux, ça les a choqués considérablement. Alors, quel résultat on obtient? Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous voyez le travail que vous faites sur vos patients? Vous voyez des gens qui arrivent chez vous complètement déconfits, complètement presque dans un état dépressif, peut-être même. Et comment ils s'en sortent? Comment vous arrivez à les guider?
Ça va vraiment dépendre finalement de la plainte de départ, parce que comme je disais, on a plein de manières différentes de vivre un peu notre peine par rapport à cette situation. Il y a des personnes qui vont être prises beaucoup par la culpabilité, d'autres par la tristesse, d'autres vraiment par l'angoisse. Donc en fait, comment l'idée c'est de ne surtout pas les prendre pour des fous, considérer que c'est pas vraiment intéressant. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier élément, valider un peu l'état de la personne et l'aider un peu de trouver sa place un peu dans son... Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est qu'une émotion exprime un besoin et exprime aussi derrière le fait qu'il y aurait un passage à l'action à mettre en place. Donc, l'idée, ça va être de voir qu'est-ce qu'est en train de réclamer son corps, en train de dire qu'il y a un truc qui ne lui convient pas, qu'est-ce qu'il est en train de réclamer. Alors, oui, il y a une certaine impuissance, c'est pas une personne, un individu tout seul qui va pouvoir changer ce qui se passe au niveau des mutations du monde, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans lequel il va se sentir plus juste, plus ajusté. Comme on disait tout à l'heure, l'histoire de changer de travail, par exemple, ou il y en a qui passent à l'action en devenant des militants, mais il y en a d'autres au contraire qui disent, moi, ce dont j'aurais besoin, c'est effectivement sortir de la ville, aller plutôt vivre à la campagne, et me remettre en contact moi avec la nature. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est une vision très individuelle de dire, je pars me mettre au vert et tout ça, mais ce qui se dit aussi, c'est que d'une certaine façon, quand on prend soin de soi et de son équilibre interne et qu'on est un peu plus ajusté, en fait, on va moins augmenter toute cette tension, toute cette pression dans laquelle nous sommes.
Et même pour les autres aussi, collectivement.
Et pour les autres,
on est moins stressant
ça.
Pour les autres. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Manon, vous faites des petits clins d'œil avec notre invité depuis le début de l'émission, c'est très dérangeant. Vous nous parlez de l'autre personne à suivre.
Et oui, je vous présente Johanna Macy. Elle a 94 ans, elle est américaine et son nom est indissociable de l'éco-psychologie. Car cette militante écologiste diplômée en sciences des religions s'est faite connaître pour son approche mêlant écologie profonde, spiritualité et psychologie. Elle commence à s'intéresser à l'éco-psychologie dans les années 90, alors que cette discipline était encore émergente, inspirée par le bouddhisme et les luttes pour la justice environnementale. Elle veut mettre en avant les liens entre le bien-être humain et la santé de la planète. Pour ça, elle crée une approche unique concernant l'éco-psychologie qu'elle nomme le travail qui relie. C'est une méthode pour aider les individus à faire face à leur éco-anxiété tout en agissant collectivement pour protéger la planète. Elle se divise en 4 étapes. S'ancrer dans la gratitude, honorer la douleur pour le monde, changer de regard et aller de l'avant. Alors dit comme ça, ça fait un peu méthode de développement personnel quand on n'y connaît rien, mais elle est reconnue parmi les activistes les plus chevronnés. Elle est notamment utilisée à travers le monde dans des ateliers, des cercles de discussion et des programmes éducatifs pour inspirer résilience, espoir et passage à l'action face aux défis environnementaux. Sa méthode inspire également des pratiques au sein de certains groupes d'Extinction Rébellion en France. Elle propose une vision radicale, reconnaître que nous sommes partie intégrante de la nature. Pour elle, le lien humain-nature n'est pas seulement une jolie idée poétique, il est fondamental pour notre survie psychologique et spirituelle. Ce lien, une fois retrouvé, peut transformer notre rapport à nous-mêmes et au vivant. C'est pour ça qu'en 2018, elle a sorti un ouvrage ouvertement dédié à l'éco-psychologie intitulé « Éco-psychologie pratique et rituel pour la Terre, revenir à la vie ». Il est devenu une référence parmi les adeptes de l'éco-psychologie. Elle y défend un changement de paradigme qu'elle appelle le grand tournant, passer d'une société consumériste à une civilisation en harmonie avec la Terre.
Merci Manon, tout ça c'est très beau. Retrouver l'harmonie avec la nature, on est tous d'accord, mais comment on fait, Manuela, dans une société qui est hyper individualiste et hyper technologique?
Comment on fait pour?
Pour renouer avec cette nature qui est souvent loin de nous.
En fait, je pense qu'elle n'est pas loin de nous, elle est dans nous. Enfin, je suis désolée de le répéter.
Ah ben oui, mais c'est rassurant, oui, on peut aller la chercher.
Enfin, c'est-à-dire juste le souffle. Le souffle, c'est quelque chose qui est, on va dire, très... C'est bateau, il est là, il est toujours là, mais c'est généralement... Et puis c'est un exercice qu'on utilise beaucoup de manière générale, de toute façon, en psychothérapie, qui est l'exercice d'ancrage à travers la respiration. Puis il y a aussi tout ce qui... Enfin, même en étant à Paris, quand on regarde le petit brin d'herbe là, qui dépasse du béton, c'est... Enfin, je pense qu'on veut absolument voir des arbres extraordinaires dans la forêt amazonienne, des choses comme ça, mais non, en fait, enfin...
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il a grandi dans la paix du Christ et pourtant c'est le pire d'entre nous. Ce matin, n'ayant pas supporté que Manon le vanne sur son sweat kitsune, une marque qui selon elle était à la mode en 2009, Pierre devint tout rouge, presque écumant de rage, ne pit pas mot, jusqu'à ce qu'il trouve la bonne perfidie dont il savait qu'elle blesserait l'ego stylistique de Manon. En désignant son chemisier rouge, il lâcha alors un sobre mais efficace, c'est le même qu'Anne Romanoff. Pierre Courage,
c'est,
vous êtes
c'est
le pire.
C'est un canton de Cantan, donc voilà.
C'est vrai, c'est une vraie histoire.
Oh, c'est une belle pièce.
C'est une seconde main d'Anne Roumanoff.
Non, dédicacée.
Sur le dressing vintage d'Anne Roumanoff.
Pierre Courage, chaque après-midi, tout ce qu'on s'est dit dans l'émission résumé en une minute chrono, attention.
Et d'ailleurs, Manon, si vous promenez en forêt comme notre invité, vous ferez un très beau petit chapeau en rouge, sauf que le loup, vous l'avez déjà vu. On a donc parlé d'éco-psychologie avec la psychothérapeute Manuela Santamaria, une discipline qui regroupe plusieurs aspects liés à notre rapport à la nature et au dérèglement climatique. Le trouble le plus connu, c'est l'éco-anxiété. Quand le dérèglement climatique nous angoisse, de nombreux patients viennent consulter Manuela Santamaria à ce sujet. Enfin, quand ils osent franchir le pas, la démarche n'est pas encore totalement naturelle, sans mauvais jeu de mots, comme dirait notre ancien stagiaire Valentin. Même des scientifiques du climat viennent la consulter. L'éco-psychologie, c'est aussi expliquer le dérèglement climatique par la psychologie. Ça peut paraître étonnant, mais ce que nous a appris notre invité, c'est que dans nos sociétés occidentales, nous avons trop souvent oublié que l'être humain faisait partie de la nature. S'attaquer à la nature, c'est s'attaquer à nous-mêmes. Voilà comment on peut psychologiser la crise climatique. Enfin, la nature elle-même peut nous aider à aller mieux. C'est le retour à la Terre, se reconnecter aux arbres avec des animateurs pas forcément bien formés, ce qu'au fond, néanmoins, Quentin et Manon chaque dimanche au but de Chaumont. Quentin enlaçant un cerisier du Japon, Manon enlaçant le barman du Rosa Bonheur.
Oh, mais bon, ça va, hein.
Ah Pierre, un vraiment génie du mal, mais génie de la synthèse. Dans notre collection, un certain regard à présent. Galiléa, vous êtes influenceuse bien-être, néo-chamane, et vous êtes récemment formée à l'éco-psychologie. D'où vous êtes venue cette nécessité ?
En fait, j'ai toujours voulu continuer à me développer, à inciter mes clients, mes fidèles abonnés, ma communauté de farfadés, à déployer l'amour de soi et de la terre. Et puis, j'ai surtout vu ma compétitrice sur les réseaux, cette salope de Marlène Pierre de Lune, la gardienne d'espace sacré de mes deux, qui m'a dépassée en follower quand elle s'est mise à jouer de la flûte à prière péruvienne. Donc, j'ai suivi une formation e-learning en non-mixité pour devenir praticienne en éco-rituel. Ça m'a passionnée. C'était hyper fort. On était 45 femmes connectées à bénir notre utérus en méditation sur Zoom. Dingue. J'ai compris que je ne haïssais pas Marlène. Juste, je la méprise. Merci l'univers. Donc j'ai voulu approfondir par un stage TQR en IRL d'éco-spiritualité TCC à la forêt de Compiègne. 1 200 € TTC. Cette fois avec des hommes, parce que c'est plus rigolo tout de même. J'ai pas passé des heures à pratiquer le yoga du visage pour que personne n'admire mon absence de rides. Et puis j'ai rencontré Marc, ex-avocat d'affaires. Après qu'il ait effectué 700 plans de licenciement, Marc voulait tout naturellement se reconnecter à la nature. Il m'a dit, tu sais, on peut pas licencier un arbre. C'était si beau. J'ai su qu'on allait vibrer à la même fréquence. Au programme de la semaine, danse du soleil, parce qu'il pleuvait comme vache qui pisse. On espérait un peu de répit, mais non, comme disait Marc, on a littéralement pris des bains de soleil, de forêt. Oh bref, c'était excellent, j'étais MDR. Ou plutôt, comme disait Marc, EMDR. Merci Manon, apparemment. Vous êtes la seule que ça fait rire. Puis, le centre n'était pas chauffé pour des questions d'écologie évidentes. Donc on a tous eu la crève dès le premier jour. Mais on se faisait de bonnes mixtures issues de l'agriculture biodynamique, clairement pas végane. On sacrifiait des animaux en l'honneur de Pachamama. Bon, c'est vrai que c'était juste des filets de poulet achetés au Carrefour Market, mais le geste était fort quand même. Puis on prenait du poppers et ça nous donnait le petit coup de fouet nécessaire pour faire chanter notre bol tibétain. Ah ça, il y avait de l'ambiance. C'était tantrique. Marc avait la trique. Mais ça a dérapé J3 lors de la sortie exploration sensorielle dans les bois. Moi, je me suis arrêtée pendant la marche du temps profond pour parler à un rocher dont je suis sûre que c'était mon ancêtre. J'ai reconnu mon front et mes pommettes. Mais Christine et Pascal, eux, se sont mis tout nus pour câliner des arbres. Et il y avait des insectes. Une abeille est rentrée dans la chatte de Christine. Et un tic a piqué Pascal sur la bite. Donc le soir, ça a chauffé, lors du cercle de parole. Après la liqueur de gingembre et l'ayahuasca commandée sur le dark web, les langues se sont déliées. Quand le bâton amérindien est tombé dans les mains de Christine, elle nous a confié, tout en se grattant la zézette, que c'était plus possible les LGBT, parce que quelque part, oui, ils ne respectent pas l'ordre de la nature, qui veut que les hommes et les femmes se reproduisent ensemble. Elle regardait Pascal... Mais il n'était pas très réceptif. Il voulait plutôt que Sophie lui masse le sexe. Alors, pour briller certainement, il nous a soutenus qu'il savait de sources sûres que le Big Pharma et les labos étaient détenus par la communauté au long nez. Et ensuite, il a fait la danse de Rabbi. Pas celle de Pierre Rabhi, hein, ça c'était J2. Non, celle de Rabbi Jacob. Et puis il a fini par des saluts nazis, hyper enthousiaste. Il est un peu autiste aussi. Mais Sophie n'écoutait rien, elle chialait. On lui disait « Respire Sophie, pranayama !» Elle a fini par nous avouer qu'elle avait perdu la garde de son gosse, Banjo, parce qu'elle l'avait intoxiqué avec du venin de grenouille. En fait, elle lui avait fait un rite cambo pour qu'il arrête de la mordre quand elle l'allait. Il a 10 ans aussi. Bref, maintenant, c'est son mari qui s'en occupe et il lui a filé un smartphone 5G. On sait déjà quel va être son animal totem à Banjo. Un bon mouton. Bêh !
Merci beaucoup, Rosa, pour cette immersion. C'est la première fois qu'on y est vraiment dans les week-ends de Ghislain Fontana, notre réalisateur. On vous retrouve dans Dédoublé, votre spectacle au Théâtre de l'Œuvre, ainsi qu'en tournée. Merci, Manuela Santamarina, de nous avoir éclairé sur les enjeux de l'éco-psychologie. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et que c'est sur vos conseils qu'on va donc lâcher nu Cyril Lacarrière en forêt de Chantilly dimanche prochain pour qu'il se reconnecte un peu avec le grand tout. Lui aussi, ça lui fera du bien. Zoom, zoom, zen.